Bonjour et bienvenue sur Paper Club, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. À chaque épisode, vous découvrirez avec moi des entrepreneurs et des experts qui viennent me parler de leur parcours, de leur point de vue et surtout partager avec nous leurs meilleurs conseils. Je suis Émilie Cohen, directrice marketing chez Club Funding, plateforme d'investissement. Et je reçois à chaque épisode des entrepreneurs qui nous inspirent et qui, je suis sûre, vous inspireront aussi. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode sur Paper Club et pour vous préparer pour la saison 4, je vous propose de vous replonger tout de suite dans la saison 3 avec ce best-of. C'est l'occasion de revivre toutes les analyses de marché diverses, les évolutions qui ont animé cette saison. De la promotion immobilière au property management en passant par le métaverse. Une saison qui a été riche en invités, tous aussi inspirants les uns que les autres. Au programme de cet épisode best-of, nous redécouvrirons la vision d'un opérateur immobilier lors du choix d'un actif avec Samuel Gelrubin du groupe Terrou. Nous évoquerons la thématique brûlante de la saison 3, je parle bien sûr du taux d'intérêt et du taux d'usure. Et pour en parler, nous avions reçu à l'époque Pierre Chapon de Préto et Caroline Arnoux de CAFPI. Toutes ces évolutions ont impacté le marché locatif. Pour en parler, je vous invite à réécouter Saskia Fizel de Virgile, mais encore Adrien Pelligri d'Estia, Malik Benrejdal d'IADE ou encore Brice Herrera de Galia. Ils nous ont tous donné leur vision sur ce sujet. Mais vous le savez bien, lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Et c'est là qu'interviennent Avidan Koubi de Monga, Déborah Fritz avec Maïré ou encore Stéphanie Zolesio de Casino Immobilier. Avec cette vision novatrice du secteur et leur capacité à faire évoluer le marché grâce à de nouveaux outils. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt pour la prochaine saison de Paper Club.
Et il s'est trouvé, alors moi je vais te raconter pour la petite histoire, et il s'est trouvé que... j'ai été négocié avec un assureur, donc en l'occurrence mon père et mon grand-père avant lui, ils vendaient donc des machines industrielles textiles, ils devaient les assurer avant de les livrer à leurs clients, etc. Et donc je me retrouve à aller négocier avec un assureur pour ces machines, et l'assureur qui me dit « Ah bah tiens, c'est drôle que tu sois là, j'ai une queue de programme, il me reste une boutique à vendre, place Charles Dullin dans le 18e ». Alors, pas la peine de te dire qu'à l'époque, que de programme, je ne sais absolument pas de quoi il me parle. La boutique, je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Et donc, mon père me dit à l'époque, écoute, tu sais quoi, c'est très bien, on va apprendre un métier. Au pire, on a les fonds pour l'acheter, mais tu vas quand même aller voir le banquier pour aller essayer d'emprunter. Et puis, soit tu vas la louer, soit tu vas la revendre, on fera les travaux, on va voir ce qu'on fait. Bon. Je signe à l'époque, c'était chez AGF, donc je signe chez AGF Immobilier rue Richelieu. Et au moment de la promesse, on me donne les clés en fait de la boutique. Je vais dans le 18e, il y a une agence immobilière sur la place, je rentre dans l'agence immobilière, je laisse les clés à une commerciale qui me rappelle le lendemain en me disant « j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». Mauvaise nouvelle, je vous ai pas trouvé de locataire. Bon, j'ai dit, écoutez, je suis passé hier quand même. Ça va. Et pour la bonne nouvelle, par contre, j'ai un acquéreur, c'est un archi, mais alors par contre, vraiment, il veut surtout pas que vous fassiez de travaux, il veut vraiment l'acheter en l'état. Et donc, elle me sort une offre au double du prix de ce que j'ai signé la veille. Donc ce jour-là, je me suis dit que j'avais trouvé ma voie. Voilà, donc avec cette offre, on a fait financer la boutique 100%.
Ouais.
Voilà, par la banque qui était la banque qui nous finançait donc les machines. Et puis on l'a revendu, le lendemain. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai racheté Donc, j'ai racheté d'autres boutiques. J'ai commencé d'abord beaucoup dans le commerce.
Dans le commerce, ouais. Ok.
Beaucoup sur des murs de magasins.
Donc en fait, t'achètes, mais parce que t'achètes un bien en disant qu'est-ce que je vais en faire après et absolument. Est-ce que ça aura vraiment une pertinence, de la valeur ? C'est vraiment comme ça la réflexion
absolument.
Que tu as.
Absolument. C'est comment est-ce que je peux créer de la valeur avec cet actif.
Mmh.
Voilà. Alors parfois, c'est un changement de destination. Parfois, c'est qu'il y a un problème juridique sur l'actif qu'on va pouvoir faire. Parfois, c'est de la construction.
Mmh.
C'est vraiment... Enfin, parfois, c'est l'État aussi. Enfin, je suis tombé rue Saint-Denis sur un immeuble en état de péril, quasiment.
Mmh.
Là, il fallait travailler un immeuble complètement occupé en état de péril. Laisse-moi te dire que...
Mmh.
Voilà, quand t'avais pas... Enfin, j'avais pas 30 ans, c'est compliqué.
Ouais, ouais, voilà. C'est sûr.
Mais bon, on en apprend beaucoup. Mais au moins, il y a un vrai travail pour faire de la création de valeur. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que concrètement... toutes les agences qui font de la transaction, c'est même pas la peine qu'ils nous proposent des actifs où on n'a pas de création de valeur, parce qu'aujourd'hui, tous les investisseurs institutionnels, ils vont payer beaucoup plus cher que nous pour ça.
Mmh.
Donc, ce sera des actifs qui ne seront pas pour nous.
D'accord, ok.
La situation, c'est que les taux de crédit ont augmenté très fortement en relatif en 2022. Donc, on est parti grosso modo des taux historiquement bas fin 2021, mm-hmm. À peu près 1%, on va dire, sur 25 ans pour les très bons taux. Et puis et là, on va bientôt passer les deux, quoi, à peu près. Donc, ça a doublé. Donc, c'est, en relatif, c'est énorme. En absolu, c'est finalement plus 1 point. Donc, c'est... On peut le voir aussi de manière différente. Là où, j'ai pas le chiffre en tête, mais sur les 20 dernières années, la moyenne, c'était plutôt 3-3,5%.
Ouais.
Donc, si on prend du recul, les taux, ils ont augmenté de manière très, très rapide, mais d'une base très basse. Et on est à des niveaux qui sont en fait toujours bas pour s'endetter sur de l'immobilier. Ma lecture, elle est un peu à deux vitesses. La situation absolue, elle est très saine. On a une inflation à 6%, la possibilité d'emprunter à 2%. Il faut toujours, en tant que consommateur, si on le peut, s'endetter sur l'immobilier dans des conditions comme ça. Après, la rapidité de l'augmentation, ça crée des turbulences. Ça crée de l'anxiété un peu naturelle des consommateurs, et ça crée aussi des phénomènes un peu techniques autour du taux d'usure qui bloque une partie des octrois de crédit parce que la formule de calcul elle est un peu obsolète.
Mm-hmm.
Mais ça c'est quelque chose de temporaire, donc voilà. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le court terme, là, en ce moment et sur la deuxième partie de l'année, le marché est un peu ralenti. Et après, il va se passer quelque chose d'assez classique, je pense. Hein, c'est le crédit se renchérit parce que la hausse, elle va continuer.
Mm-hmm.
Les prix peuvent s'ajuster, soit dans les zones tendues, la hausse se calme, soit dans des zones un peu moins tendues, les prix peuvent baisser un petit peu. Ça, c'est la vie normale d'un marché immobilier.
Alors, très forte baisse, hein, parce que là, on est sur des chiffres. Alors, Crédit Logement dit moins 30%. Fin d'année dernière, on disait moins 40%.
Ouais.
Donc, on est sur des baisses très, très importantes. Hein.
Mmh.
Donc, l'origine de tout ça, ça a été certainement le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Mmh.
La tension très forte sur les matières premières et donc l'augmentation rapide de l'inflation. Finalement, cette augmentation continue de l'inflation hein, depuis l'année dernière a amené les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne, à remonter ses taux. Et l'idée, en remontant ses taux, c'est de dire plus j'augmente mes taux, plus je vais freiner la demande de crédit. Et si je freine la demande de crédit, je vais faire baisser l'inflation. Donc ça, c'est le calcul qui a été fait par la Banque centrale. Donc depuis le mois de juin dernier, hein, ça va faire presque un an finalement, la Banque centrale n'a eu de cesse que d'augmenter ses taux. Mmh. Et donc en augmentant ses taux, et notamment les taux de refinancement, C'est-à-dire que les banques, pour aller chercher des liquidités à la banque centrale, mais elles les payent beaucoup plus cher. Donc, quand on dit ça, effectivement, ça peut être compliqué sur les banques, mais si les banques les empruntent plus cher, enfin, vont chercher des liquidités plus chères et les redistribuent plus cher, elles préservent leur taux de marge, elles ne perdent pas d'argent. Or, il y a un deuxième facteur qui a été le taux d'usure. C'est-à-dire que comme les taux, le taux d'usure, pour rappeler à tout le monde, c'est le taux maximum auquel une banque peut vous prêter. Il est fixé trimestriellement par la Banque de France. Il était fixé trimestriellement par la Banque de France. Et donc, comme les taux augmentaient très vite tous les mois, ce plafond de l'usure qui était fixé trimestriellement n'avait pas le temps de s'adapter à la hausse des taux. Et donc, en fait, ça bloquait complètement le crédit puisque les banques, finalement, achetaient de la liquidité et puis la revendaient à perte puisqu'ils ne pouvaient pas aller au-delà du taux d'usure. Donc, ça a vraiment bloqué. Nous, les courtiers, on a été les premiers, puisqu'on était les premiers impactés, à tirer la sonnette d'alarme dès le mois de juillet 2022.
Oui.
Et puis, finalement, les autorités s'en sont rendues compte. Un peu trop tardivement. Hein, puisque voilà, le marché de l'immobilier était déjà bien, bien bloqué, un peu tardivement, plutôt début 2023, et a décidé d'ajuster le taux d'usure mensuellement. Donc pour l'instant, il est mensuel. Donc il y a un moindre décalage, c'est-à-dire que quand les taux augmentent, bah, finalement le taux d'usure s'adapte le mois d'après, donc ça bloque un peu moins de dossiers.
Mais en fait, on me demande un apport. Même pour les banques qui veulent bien me prêter sans apport, en fait, ma capacité d'emprunt, elle n'est pas suffisante pour acheter quelque chose qui me corresponde vraiment. Et en fait, aujourd'hui, bah, moi, j'ai un bon salaire, j'ai fait des bonnes études. Je vois pas pourquoi, en fait, je devrais, pour devenir propriétaire, alors que je sais, en fait, que rationnellement, financièrement, c'est ce qu'il faut faire, je vois pas pourquoi je devrais habiter dans un 15 mètres carrés à une heure de mon lieu de travail. Et donc, on voyait, en fait, cette espèce d'absurdité, qui ne disait pas son nom parce que personne n'en parlait à l'époque, de ceux qui ont déjà de l'argent et du capital familial deviennent propriétaires, ceux qui n'en ont pas restent locataires. Et on assistait un peu à cette tentative de maquiller ça comme, la jeune génération, c'est des slasheurs, ils n'aiment pas posséder, ils n'aiment pas rester au même endroit. Alors oui, c'est vrai pour typiquement une voiture, un téléphone qui va perdre de sa valeur à partir du moment en fait où tu l'achètes. Donc c'est sûr que la location, c'est un modèle intéressant. Le fait de rester locataire, ça te fait perdre 40% de ton revenu chaque mois, alors que tu pourrais en fait le garder, le construire, l'investir grâce au fait de devenir propriétaire. Là, tu te rends compte qu'il y a un problème économique majeur, qu'il y a une crise en fait qui se prépare super forte, une crise économique qui ne dit pas son nom, avec toute une génération en fait qui va se retrouver paupérisée et dépossédée parce que elle va pas pouvoir accéder à la propriété. Et donc on avait ce truc qui nous chatouillait super fortement et on se rendait compte qu'il y avait à la fois une problématique d'accès au capital, problématique d'apport, et aussi une problématique simplement d'accompagnement, parce que devenir propriétaire était devenu un parcours du combattant impossible. Moi, à ce moment-là, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir devenir propriétaire parce que j'ai eu justement un peu d'argent de mes grands-parents, et je me suis rendu compte que même en ayant en fait toutes les bonnes cases, le parcours, c'était atroce, alors que c'est censé être le meilleur moment en fait du début de ta vie, c'est le plus gros investissement que tu fais, sauf que en fait t'es confronté à plein de gens qui poursuivent leur intérêt personnel alors que toi t'es en train de mettre les économies de toute ta jeune vie tu as l'impression que tout le monde est en train d'essayer de profiter de toi, et je trouvais que t'avais absolument personne pour t'accompagner sur ce chemin là et c'est comme ça qu'est née l'idée de Virgile, c'était de se dire en fait il y a un piège locatif, c'est le plus gros obstacle de la génération qui arrive. Et aujourd'hui, il n'y a pas de façon d'en sortir. Nous, avec Virgile, on va le résoudre de deux façons. Déjà, on va co-investir du capital aux côtés des jeunes actifs. Donc, on va compléter ou se remplacer l'apport des parents pour en fait augmenter le financement. On va être co-acheteur quelque part pour leur permettre de passer en fait la première étape du financement.
En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a souvent eu en fait un problème d'accès à la propriété. Puis en fait, là, il est mis en lumière par le contexte actuel où forcément les taux d'intérêt augmentent. Il y avait cette fameuse problématique du taux d'usure qui bloquait encore plus de profils. Où en fait, je pense qu'en France, on a globalement les Français ont un attrait assez profond pour l'immobilier. Et en fait, il y en a beaucoup qui se retrouvent bloqués dans leurs projets. Parce que des chiffres qui étaient relayés par certains courtiers, il y avait une demande de prêt sur deux qui a été refusée en 2022. En fait, c'est assez énorme et ça ne concerne pas forcément quelques ménages. En fait, c'est vraiment une demande de prêt sur deux. Et en fait, nous, justement, quand on s'est lancé, on a été surpris de la diversité, finalement, des profils qui ne pouvaient pas accéder à la propriété. Donc, effectivement, les jeunes actifs qui peuvent avoir un manque d'apport, vu que, par définition, ils rentrent dans la vie active, donc ils commencent à travailler. Mais en fait, il y a également d'autres profils. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a un actif sur 10 qui est indépendant, qui soit en fait entrepreneur, profession libérale, etc. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, il peut avoir des difficultés pour emprunter, peu importe son niveau de revenu, seulement s'il n'a pas 3 années de bilan comptable. En fait, une banque traditionnelle, elle a du mal à scorer et à appréhender le risque. Et donc, en fait, aujourd'hui, elle ne s'embête pas, elle refuse le dossier, peu importe le niveau de revenu. Donc justement, on pense qu'il y a plein de profils qui sont solvables, mais pas finançables. Et nous, c'est exactement nous le problème qu'on veut résoudre, c'est apporter plus de flexibilité en fonction de différentes situations de vie pour qu'on puisse accompagner finalement tout le monde à devenir propriétaire.
Quelle va être la tendance à venir ? Alors, c'est sûr que, à mon sens, de toute façon, on tend vers ce qu'on appelle le seuil de notre marché contraint. Et en transaction immobilière, c'est quoi un marché contraint ? Il y a des ventes qu'on n'empêchera pas de se faire, quelque part. C'est les ventes, c'est toujours, tu sais, la règle des dés, déplacement, divorce, décès.
Je ne connaissais pas la règle des dés.
Tu ne la connais pas, celle-là ?
Non, non. Mais du coup...
Mais ça, c'est, on va dire que c'est le nucléaire, quelque part, du marché immobilier. C'est que ce marché contraint-là, c'est que à partir du moment où, effectivement, tu as un enfant qui arrive, tu es contraint, tu n'as pas assez de place, tu dois forcément changer de logement. Quand tu divorces, tu dois quitter ton logement et aller vers deux logement. Quand tu as un décès, forcément, une succession à la clé, et donc avec un certain délai pour pouvoir effectivement t'acquitter de tes droits. Enfin, la mutation, enfin le déplacement professionnel, la dette aussi. Quand tu as trop de dettes, à un moment donné, il faut rationaliser, vendre. Donc, en fin de compte, tu vas avoir vendeurs et vendeurs. Tu vas avoir les vendeurs qui vont être contraints et eux vont continuer à alimenter la machine. Et puis, donc, le marché contraint et de l'autre côté, le reste du marché un peu plus compliqué parce qu'effectivement, des vendeurs qui ont un projet de vente pour autre chose, mais qui sont pas forcément pressés, mais, et qui en plus ont joui de conditions d'emprunt à 1 ou 2%, tu sais, sur le marché, quand tu as du 1, 2 et que tu dois vendre pour aller emprunter à 4 sur un marché qui a pas trop baissé, est-ce que tu vas vraiment le faire? C'est une question que tu peux te poser.
Bien sûr.
Moi, je dirais que ça dépend de la classe d'actifs et ça dépend du marché.
Mmh.
Voilà. On travaille aussi, on fait pas mal de copromotions avec des acteurs qui te disent que quand même les bulles de vente au niveau de l'habitation, c'est un peu vide.
Mmh.
Donc,
d'accord,
c'est un peu dur. Voilà. Et qu'ils n'ont pas vu ça depuis quand même très, très longtemps. Donc, si tu fais une promotion neuve en habitation en dehors de Paris, et même d'ailleurs dans Paris, tu peux souffrir un peu parce que tes bulles de vente et les gens n'arrivent pas à se financer tout simplement.
Ouais.
Donc, cette classe d'actifs-là, ce serait se mentir que de dire qu'elle est, on ne va pas dire en danger parce que je ne pense pas qu'elle soit fondamentalement en danger, mais en tout cas, elle est remise en question aujourd'hui. Mmh. Et donc, c'est peut-être sa capacité à résister ou à tenir qui va être impactée. Donc, voilà. Les bureaux en dehors de Paris, c'est aussi pour moi un peu compliqué. Je pense que quand tu fais des grosses constructions de bureaux en dehors de Paris, c'est un peu compliqué. Sachant que les valeurs ont concrètement baissé puisque les taux de cap ont aujourd'hui fortement augmenté. En tout cas, les rendements attendus ont fortement augmenté.
Et donc là, à ce moment-là, je me suis juste demandé, vraiment pas du tout pour en faire un business initialement, mais parce que le PM, c'était moins mon sujet, que je connaissais un petit peu, mais pas assez pour comprendre de quelle façon est-ce que c'était stratifié. eh ben, de quelle façon est-ce que ces sujets étaient traités? La gestion technique, c'est quand même assez épidermique. T'as un problème de parquet, une latte qui est levée, il y a un dégât des eaux chez toi, t'es au travail, tu penses à ça. Si, en plus de ça, t'as pas le répondant en face pour pouvoir accélérer la démarche, eh ben, ça devient de plus en plus pesant. Et donc, pour comprendre un peu, je me suis dit que ça serait peut-être intelligent d'aller poser des questions, faire des interviews. Donc, j'ai appelé des petites agences de quartier qui faisaient de la gestion locale, hein, des property managers que je connaissais. J'ai évidemment commencé par ces structures.
Mais à ce moment-là, excuse-moi,
ouais,
tu n'avais pas en tête d'un business derrière.
Non.
Juste, tu le faisais pour comprendre ce qui se passait et pourquoi il y avait ces pain points.
En fait, je me suis dit, c'est pas normal que sur une structure de cette taille et avec ce niveau de solidité sur des mandats institutionnels, il y ait ce résultat-là en bout de chaîne. C'est peut-être qu'il y a un souci.
Ouais.
En faire un business ou pas, à ce moment-là, c'était pas mon sujet, c'était juste vraiment par curiosité intellectuelle d'essayer de comprendre où était le problème, quoi. Où était le problème? Donc ça m'a pas pris. Alors on en a fait quand même. Au final, on a fini par en faire 120. Donc on n'a pas cherché
interview?
À faire. Ouais, on a fait 120 interviews. J'ai utilisé mon petit frère. Je lui ai demandé d'appeler
pour son stage.
Ouais. On parlait. On disait qu'on était en stage en mémoire de fin d'études et qu'on faisait. Voilà, on se renseignait sur le marché et plutôt qu'axer le discours sur la partie technique et donc orienter forcément la réponse, on posait des questions qui étaient finalement assez larges. Donc on disait dans votre tâche du quotidien, quelles sont celles que vous considérez comme étant les plus chronophages, les plus répétitives, les moins créatrice de valeur. Et dès les premières interviews, et quelle que soit la taille de la structure, que tu sois en administration de biens, syndic, gestionnaire, même sur des gros gestionnaires, ou alors sur l'écosystème investisseur qui internaliserait le property management, comme ça arrive certaines fois, eh bien, il y avait directement cette réponse qui était presque cinglante sur la partie gestion technique. Tout le monde ne nous parlait que de ça. Gestion technique, les travaux, voilà les mots qui arrivaient.
Mais on est parti de l'asset management qui vient récupérer de la donnée de gestion. Cette donnée de gestion, elle vient en général d'un property manager, qu'il soit interne ou externe. Le property manager, jusqu'à présent, on lui a demandé de faire quoi ? On lui a demandé d'aller faire la gestion locative, donc d'aller quittancer, collecter des loyers et gérer l'actif. On ne lui a pas demandé de structurer la data. Et donc nous, quand on est venu sur le property management en se branchant à des outils historiques ou en récupérant de la donnée avec des uploads d'Excel, etc., on a une stat qui est assez mauvaise, qui est 30% d'erreurs.
Ah oui.
Donc, on est obligé de faire un travail de data gouvernance et de structuration de données pour récupérer de la donnée correcte. Et donc, comment est-ce qu'on a ces stats? D'abord, nous, on a mis en place un modèle qui est mathématique. Historiquement, les logiciels de property management... Vous m'arrêtez quand je suis trop technique.
Hein, ouais, mais j'écoute avec attention.
Historiquement, ces logiciels d'administration de biens sont des outils de comptabilité qui ont été adaptés à l'immobilier.
D'accord.
Donc, je fais de la compta pour aller faire de la facture. Finalement, un peu normal. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un modèle mathématique qui est capable d'aller modéliser toute l'imagination d'un asset manager avec des baux de 9 ans ferme, des franchises de loyer étalées peut-être sur les 9 ans, des step rents qui sont parfois indexés, parfois pas indexés, des lots qui ne sont pas loués au même prix. On va trouver des cas assez sympas. Des asset managers. Et donc, nous, comme on fait du modèle, on est capable d'aller retracer, en fait, toute cette imagination et du coup, de vérifier ce qui remonte du property management. Et donc, on compare et il y a un workflow de validation. À partir du moment où les baux sont validés dans la plateforme Maïri, on n'écrase plus ce qui remonte du property manager, on le compare et on met en avant ce qui n'est pas correct.
D'accord, ok. Aujourd'hui, on va regarder des plans sur un ordinateur avec un plan cadastral. On va appeler des architectes pour les briefer et ils vont nous faire des superbes dessins. Voilà. Et puis derrière, on va aller peut-être développer des projets avec du béton en appelant des Vinci ou des Bouygues ou plein d'autres gens. Et en réalité, quand je développe un terrain dans les métaverses, qu'est-ce que je fais ? Mais la même chose.
La même chose.
Sauf qu'en fait, au lieu d'avoir un architecte, je vais avoir un studio. Au lieu d'avoir un bétonneur, je vais avoir un codeur informatique. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de mes nouveaux espaces ? Eh bien, tout ce que les enseignes voudront y mettre
comme un centre commercial, comme un pied d'immeuble, comme le reste. Et en réalité, le métier et les sous-jacents du métier sont les mêmes. La façon de le faire est différente. Mais en gros, nous, dans le groupe Casino, on a des enseignes physiques, on a des marketplaces, puisque Cdiscount fait partie intégrante filiale à 100% du groupe Casino. Donc, on a aussi la partie, on va dire, à plat du magasin en 2D. Et le Metaverse demain permet d'avoir non pas le magasin en 3D copie conforme, parce que ça ne nous intéresse pas beaucoup de se dire qu'on fait des pâles copies de ce qu'on trouve dans la réalité, mais permet d'avoir une brique de plus dans un écosystème omnicanal et que ça nous permet de créer des ponts entre le monde virtuel et le monde physique. Le but n'est absolument pas de détourner les gens de la vraie vie, des vrais magasins et de ce qui s'y passe. Et donc, c'est comme ça que nous, on a construit les expériences qu'on a menées jusqu'ici, notamment sur la plateforme The Sandbox, en achetant des terrains dans le cadre d'un partenariat long terme, en développant ce qu'on appelle un play to earn, donc un jeu. C'est vraiment très amusant, avec un univers très leader price, un peu à la Minecraft, voxelisé, on dit, voilà. Où en fait, il y a un petit personnage très rigolo qui doit, il a une quête, en l'occurrence, faire une recette de cuisine, alors je ne vous dis pas laquelle. Et pour ça, il doit aller sur la colline des tomates enchantées, récolter ses tomates, il va devoir combattre des monstres méchants qui veulent manger son blé, il va devoir faire tout un tas de trucs, rencontrer des gens, etc.
On est vraiment sur du gaming.
Ah, complètement gaming, complètement assumé. Donc nous, ça nous a complètement sorti de notre quotidien immobilier. C'était très drôle d'inventer ces histoires. Et à côté de ça, ce qui était intéressant, c'est de jouer sur la logique de fidélisation, de programmes de fidélité et de discount qu'on pouvait offrir à nos clients. Et donc, au fil de ce jeu, vous pouvez trouver des QR codes cachés dans le jeu. Et en les scannant, ça vous donne une réduction automatique sur votre prochaine commande.
D'accord. Donc, en fait, tu lis le virtuel
complètement
à la réalité.
Exactement.
En proposant ce principe
exactement
de fidélisation.
Exactement. Dans la foulée, on s'est dit, mais en fait, il y a aussi un truc à faire avec les NFT. Puisque les NFT, moi, ça m'énerve beaucoup. Dans les médias, sont souvent présentés comme juste des œuvres d'art numériques qui ne servent à rien. Alors, oui, c'est un usage possible. On peut se poser la question de qu'est-ce qui sert et qu'est-ce qui ne sert pas. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Moi, j'aime à dire, j'étais collectionneuse de timbres quand j'étais enfant. Il n'y a rien qui a moins de valeur qu'un timbre oblitéré. Et pourtant, on était quand même plusieurs milliers à trouver que ça avait encore de la valeur. Donc, on a le droit de collectionner les timbres et les NFT. Mais au-delà de ça, les NFT, ça sert à d'autres choses. Et ça, là encore, c'est ce qu'on va en faire, ce que l'enseigne veut en faire. Et nous, on a développé une logique de programme de fidélité, en fait, avec les NFT. Leader Price, toujours, donc enseigne Casino, le club Leader Price. On a développé pour eux une appli LCLP Wallet qui vous permet en fait, de réclamer un NFT gratuitement. Donc, on vous envoie un NFT. On a créé 10 personnages. Ces 10 personnages illustrent les métiers de la grande distribution, le livreur, le déménageur, le vigneron, etc., le boulanger. Et si vous tombez sur le vigneron, vous avez moins 5% sur toutes vos commandes de cave. Si vous tombez sur le déménageur, vous aurez des discounts sur votre commande maison. Si vous tombez sur les livreurs, vos frais de livraison sont gratuits pendant 2 mois. Donc oui. ça, c'est assez rigolo parce que ça permet à la fois d'avoir son NFT pour ceux qui ont envie de faire leur premier pas dans le Web3. On les aide en fait en simplifiant le parcours puisqu'on évite tout la création de ce qu'on appelle un wallet, qui est une sorte de, on va dire, compte en banque Web3 sur lesquels on vient stocker ses actifs. Et en fait, nous, on fait tout ça dans une appli très facile d'accès. Mais au-delà de ça, ça permet aussi d'activer des communautés. Puisque si, moi, ce n'était pas le déménageur qui m'intéressait, mais le livreur, parce que je fais beaucoup de commandes et je vais avoir mes frais de livraison gratuits, je peux l'échanger avec quelqu'un qui, lui, avait reçu le vigneron, le déménageur ou autre. Et on peut échanger comme ça ces NFT. On peut créer des communautés, les animer différemment. Et surtout, c'est l'utilisateur qui est propriétaire de sa data. Et ça, c'est franchement la révolution, je trouve, dans le monde des enseignes grâce au Web3. Et c'est une évolution sociétale, qu'on le veuille ou non, qui est très forte. De dire qu'on veut reprendre chacun possession de nos données et la gouvernance de la data est un enjeu clé dans les années qui viennent. Le Web3 permet de replacer l'utilisateur au centre de ses données, puisqu'il ne les partage pas. On ne partage pas sa donnée grâce au Web3, on ne partage que son historique d'action. Par exemple, je ne saurais pas que vous êtes une femme ou que vous vous appelez Émilie.
Avatar est un homme,
tu fais ce que tu veux avec.
Je peux faire ce que je veux.
Exactement. Okay. En revanche, moi, je vais avoir possiblement accès à ton wallet et donc à tout l'historique de ce que tu as fait. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant comme enseigne de savoir qu'est-ce que tu as échangé, qu'est-ce que tu as vendu, qu'est-ce que tu as acheté comme NFT, comme crypto-monnaie, comme token gating, donc c'est des événements auxquels tu peux accéder grâce à un NFT. C'est beaucoup plus intéressant de savoir ça que de savoir où tu habites, si tu as des enfants, et voilà.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Club.